Oui, alors une chanson si belle a beaucoup fait effectivement pour valoriser Eros, pour défendre les prestiges d'Eros. Alors le contemplateur de la danseuse est pris par une sorte de sidération. Qu'est-ce que ça veut dire sidération? Il y a dedans le mot latin sidus qui veut dire l'étoile. Il voit une étoile et il est cloué sur place par cette fascination que cette vision produit en lui. Ensuite, il aura le désir de cette étoile, desiderare, la même racine, c'est sidus. C'est une fois vu l'étoile, c'est la regretter, la désirer encore. Hein. On est justement dans la même problématique. Et puis, ce qui est important dans la chanson, c'est la phrase « et ce mal qui nous fait du bien hein. ». Parce que la vision de l'étoile nous arrache à nous-mêmes, nous inconforte en quelque sorte, nous déracine de notre vie habituelle, quotidienne, banale, et on sent peut-être qu'on ne sera pas toujours au même niveau, que l'instant d'après, l'élan sera tombé, hein. Donc c'est un mal, mais en même temps, dans l'instant qu'on éprouve cette vision, ce mal fait du bien. Tu me tues, tu me fais du bien, dans Hiroshima, mon amour, le film de René, avec le dialogue de Marguerite Duras. Tu me tues, tu me fais du bien. Je retrouve ici ce masochisme affectif qui est propre à Eros. Alors, parlons maintenant de l'autre. J'ai dit que l'autre n'était qu'un prétexte. Hein. Si l'on étudie cet obscur objet du désir, pour reprendre le titre justement d'un film de Buñuel, à partir d'un roman de Pierre-Louis, La femme et le pantin, hein. Cet obscur objet du désir nous montre justement l'opacité qu'il y a dans ce phénomène. On nous dit « ignoti nulla cupido » en latin, c'est-à-dire « nul désir de ce qu'on ignore ». Eh bien cet axiome n'est pas toujours vrai, car il faut reconnaître que le sentiment incarné par Eros n'est pas basé sur la connaissance réelle, objective, de ce qu'est véritablement son objet. C'est un désir, et en tant que désir, c'est plutôt lui qui valorise ce vers quoi il se porte. Et là-dessus, un grand philosophe a dit l'essentiel, c'est Spinoza. Voici ce que l'on lit dans l'Éthique. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est parce que nous la désirons que nous disons qu'elle est bonne. Alors les philosophes, dans leur jargon, appellent cela un relativisme axiologique. Axiologique, ça veut dire qu'il y a rapport aux valeurs. Mais je laisserai maintenant ce vocabulaire spécialisé. Si je transpose le problème à l'amour-désir, cette phrase donnerait quelque chose comme « l'homme ne rêve pas de la femme parce qu'il la trouve mystérieuse, il la décrète mystérieuse pour justifier le rêve qu'il se fait à son propos ». Et c'est l'imagination qui joue ici le principal rôle. Il y a un très joli mot de Sacha Guitry là-dessus, un mot que j'aime bien, « comme vous étiez jolie hier soir au téléphone ». Donc il faut laisser Skype et la webcam de côté, hein, puisqu'on peut fantasmer sur une voix peut-être beaucoup plus que sur un visage. Alors on sait aussi ce que le même Spinoza dit de la beauté. La beauté n'est pas une qualité de l'objet considéré, mais un effet dans celui qui considère cet objet. La plus belle main du monde, vue au microscope, apparaîtra horrible. Je vais le citer en latin. Pulcherrima manus per microscopum conspecta terribilis apparebit. La plus belle main du monde, vue au microscope, apparaîtra horrible. C'est du latin un peu de cuisine, comme on pourrait dire. Hein. Mais Spinoza peut aussi très bien écrire en latin, comme Descartes. Hein. Quoi qu'il en soit, on voit que la beauté est quelque chose de subjectif. Voltaire disait « tout crapaud aime sa crapaude hein ». Alors on comprend dès lors que si la beauté étant ainsi relative, si elle est conférée à un objet par la perception propre à un sujet, l'amour aussi, et je répète seulement celui qui est fondé sur Eros, sur le désir, l'amour dépend uniquement de celui qui aime, et ne concerne pas vraiment l'aimer, c'est-à-dire l'objet de l'amour. Alors voici ce que Spinoza encore nous dit de l'amour. Hein. Je ne sais pas s'il l'avait éprouvé dans sa vie, mais il en a donné une définition fulgurante et inoubliable, toujours s'agissant de Eros, du désir. Il dit « l'amour est une joie, ou plutôt une allégresse hein. », il dit « laetitia », qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Amores laetitia, l'amour est une allégresse, concomitante idea, causae externae, l'idée d'une cause extérieure l'accompagnant. Et ce qui compte, c'est la fin de la phrase, parce que ce que nous prenons pour la cause de notre amour n'en est en réalité que le prétexte ou l'occasion. Ils sont tous les deux tout à fait fortuits, hein. Bien ambigu est la formule qu'on prononce souvent à l'adresse de l'objet aimé. Quant à quelqu'un que l'on aime de désir, on dit « mon amour », hein, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est toi qui causes cet amour, hein, ou bien est-ce que c'est toi qui en deviens l'objet qui lui permet de se manifester? Vous voyez, relativement au sentiment, l'expression « mon amour » est extrêmement ambiguë. Alors on peut sans dommage remplacer le mot qu'emploie Spinoza, le mot idée, idea, hein, par des mots tels que représentation ou fantasme ou imagination. Et de là viennent les constatations que tous les écrivains ont faites depuis longtemps. Dans un amour de Swann, Proust fait dire à la duchesse de Guermantes, une parole triviale, qui du cul d'un chien s'amourose, il lui paraît une rose. Et dans le même ouvrage, toujours un amour de Swann, une somme de la condition humaine, disait André Mauroy, hein, Proust commente cette disproportion ou cette disharmonie entre l'étendue du sentiment et le prétexte justement qui lui permet de se manifester par la phrase suivante, qui est une phrase de moraliste. S'étonner qu'on puisse souffrir d'amour pour une femme de rien, c'est s'étonner qu'on puisse souffrir du choléra par un être aussi petit que le bacille virgule. Alors j'ai choisi comme troisième extrait musical une chanson de Brassens que vous connaissez tous sûrement, que je commenterai après, avant de conclure l'émission.
Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel avait pourvu des mille appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. La navette, tant que je ne savais pas, ne savait plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs en me laissant à l'âme un mal funeste, et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
Oui, une jolie fleur dans une peau de vache. Donc il y a un décalage énorme entre la réalité de l'être que l'on dit aimer, hein, et puis l'image que l'on s'en fait. Elle est apparemment très belle, séduisante, mais en réalité, elle est tout à fait différente. Alors on peut illustrer concrètement cette disproportion, hein. Lucrèce avait déjà remarqué ce qu'on pourrait appeler les euphémismes de la passion. L'euphémisme, c'est le fait de dire, en embellissant une chose, pour éviter de la dire directement. Hein. Donc il s'agit ici de l'embellissement aveuglé ou du travestissement de la réalité que fait grâce à son imagination celui qui aime vis-à-vis de l'objet de son amour. Vous verrez le texte de Lucrèce dans le De Natura Rerum au chant 4 vers 1145-1170. Et ce passage a été imité par Molière dans le Misanthrope avec la fameuse tirade d'Eliante. Alors je vous la lis en entier. Il s'agit de Misanthrope, acte 2, scène 4, vers 711-730. L'amour, dit Eliante, l'amour pour l'ordinaire est peu fait à ses lois, et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable, et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections, et savent y donner de favorables noms. La pâle est au jasmin en blancheur comparable, la noire à faire peur, une brune adorable, la maigre a de la taille et de la liberté, la grasse est dans son port pleine de majesté, la malpropre sur soi de peu d'attraits chargée est mise sous le nom de beauté négligée, la géante paraît une déesse aux yeux, la naine un abrégé des merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne, la fourbe a de l'esprit, la sotte est toute bonne, la trop grande parleuse est d'agréable humeur, et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime. Alors il s'agit là de vrais conseils d'indulgence donnés à Alceste, qui est très sévère vis-à-vis de Célimène, par son ami Eliante. Et Molière n'adopte pas la distance et le ricanement qui sont évidents chez Lucrèce. Hein. Pour Lucrèce, les amoureux sont des fous, des mythomanes, qui sont totalement aveuglés. Molière est beaucoup plus subtil, et en cela il se montre très sage. Je ne suis pas sûr, en effet, qu'il faille toujours traiter ce thème sur un mode plaisant, et voir dans ce phénomène quelque chose de ridicule. Il peut être charitable de fémiser ainsi. Le moraliste Joubert disait « Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil ». Vous savez, si vous voulez avoir un ami parfait, vous n'aurez pas d'amis, tout simplement. Il faut savoir fermer les yeux sur certaines choses que nous considérons être des défauts. Et surtout, les prestiges de l'imagination sont tels que le réel à côté est bien décevant. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, être lucide et malheureux ou être aveuglé et heureux? Vous voyez, la question il faut la poser quand même. Hein. Que serions-nous sans tous les rêves que nous nous faisons à propos des choses, sans tous les mythes qui en proviennent, et finalement sans le secours de ceux qui n'existent pas? Je reprends une idée là qui était chère à Paul Valéry dans sa petite lettre sur les mythes. N'en déplaise aux matérialistes et aux esprits positifs, l'homme est le fruit d'une particulière évolution. On nous dit qu'il descend du singe, et moi je pense que l'homme descend du songe. Et je mettrai une majuscule au songe, hein, c'est-à-dire aux des rêves qu'il se fait. Hein. Et là, il y a une constante anthropologique évidente. Alors, Stendhal, dans De l'amour, parle du phénomène de la cristallisation, c'est-à-dire de l'embellissement que nous faisons des êtres vers lesquels notre désir nous porte. Comme le rameau plongé dans une mine de sel en ressort tout paré de merveilleux cristaux, ainsi l'objet de notre amour est-il transformé et transfiguré par les qualités merveilleuses dont nous l'ornons, dont nous le parons. Il est évident dès lors que son absence est préférable à sa présence, présence qui ferait obstacle précisément à cette cristallisation. Alors pour terminer l'émission, je vous dis le passage de Stendhal, c'est tiré de l'amour, chapitre 2, de la naissance de l'amour. Le livre est paru en 1822. Laissez travailler la tête d'un amant pendant 24 heures, et voici ce que vous trouverez. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. Deux ou trois mois après, on le retire, couvert de cristallisations brillantes. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grandes que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j'appelle cristallisation, dit Stendhal, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. En un mot, il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce que l'on aime. Voilà, ben écoutez, l'émission est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. J'espère que Redouane sera là pour être mon sparring partner habituel. Je vous souhaite d'aimer, bien sûr. Pourquoi pas dans la modalité d'Eros, hein, même si, comme nous le verrons dans l'émission suivante, eh bien, une autre façon d'aimer est possible. Voilà, au revoir à tous et à la semaine prochaine.